par l'hypophagie. Bon, moi je ne suis pas un hypophage, mais aujourd'hui on sait que sans hypophagie, qui est pratiquée d'ailleurs en Europe du Sud, en Europe de l'Est, sans hypophagie, plus de chevaux de trait. Donc les chevaux sont quand même fortement menacés. Les ânes aussi, 8 races sur les 9 races d'ânes en France sont menacées. Donc ça fait quand même beaucoup. Les vaches, qui constituent évidemment. Alors c'est vraiment très sombre tout ça. Hein. Je vais continuer quand même. Donc, chez les vaches, c'est une saunoise. Je vais être obligé de dire ce qu'on voit. Il y a à peu près 40, une quarantaine de races bovines en France, ce qui est quand même énorme, dont 21 qui sont aujourd'hui menacées. Donc ça fait quand même aussi beaucoup. 50% des races bovines en France sont menacées. Même si au Salon de l'agriculture, Fine, une vache de race bretonne pinoire, a eu les honneurs. À la fois de la presse et de l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Mais ça reste quand même beaucoup. Ça reste un pourcentage très, très, très important. Chez les chèvres, ici, qui aurait dû être une chèvre des fossés, 10 races sont menacées sur les 12. Donc c'est clair, hein, à part l'Alpine et la Sanenne, qui sont deux races dites industrielles, les 10 autres races de chèvres en France sont des races à petits effectifs. Petits effectifs, ça veut dire évidemment, même s'il y a une recrudescence, ça c'est un autre sujet, et un engouement, un intérêt en tout cas croissant des races à petits effectifs, ça veut dire quand même que ce sont des races qui sont évidemment aujourd'hui assez menacées et qui restent surtout très fragiles. Vous changez tout?
Bah écoutez, je vais en profiter juste pour vous présenter Philippe-Jacques Dubois. Bon, il a pris la parole, c'est lui qui anime. Mais je ne sais pas si vous le savez, c'est vraiment un grand, grand spécialiste des races rustiques et anciennes. Et c'est un ornithologue, un spécialiste des animaux, un écologue également, et un écrivain naturaliste. Notamment, il a écrit le livre Nos vaches. Ah, Nos vaches. Un très, très, très beau livre. C'était en 2011, aux éditions Delachaux et Nestlé. Est-ce que tout le monde le connaît, ce livre? Alors, si vous vous intéressez à l'écopâturage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Il y a vraiment toutes les races menacées. Et moi, j'apprécie beaucoup que Philippe-Jacques Dubois soit là parce que c'est l'un des premiers à avoir soutenu Entretien Nature et Territoire. Il était aux premières rencontres nationales, là où on n'était pas nombreux, hein, quand ça a démarré. Philippe-Jacques Dubois était déjà là. Et donc, il était venu juste après la sortie de ce livre nous présenter ces races rustiques. Donc, merci à lui de venir. Et puis, vous voyez, on voulait vous prouver que c'est intéressant de faire de l'écopâturage, parce que là, on est avec des animaux, on n'est pas. Ah, ben voilà, on a les livres, regardez un peu comment c'est. Vous voyez, avec les animaux, on n'a pas ces contraintes techniques. Vous avez vu les micros, ça tombe en panne, les ordinateurs, c'est pas fiable. Les animaux, eux, sont fiables. C'est pour ça que l'écopâturage, c'est intéressant. Donc, effectivement, À nos vaches, c'est ce livre-là. Il faut vraiment. Si vous vous intéressez à l'écopâturage, il faut vraiment l'avoir lu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous là? Oui, beaucoup? Ouais, je vois les mains qui se lèvent. Très très bien. Ça, c'est intéressant. Non, 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 il y en a. Voilà, justement, il y a un autre livre en préparation qui s'appelle L'inventaire complet. Je ne sais pas comment il s'appellera exactement, mais ça sera un inventaire complet des races de vaches. Ça, c'est pareil, ça sera aussi très très intéressant. C'est à venir, c'est pour quand, Philippe-Jacques Dubois? Fin de l'année, d'accord. Toujours aux éditions de la Delachaux et Nestlé, j'imagine. Donc voilà. Ouais, non mais c'est vrai, on a toujours ces petites contraintes. C'est pas grave. En tout cas, c'est vrai que ça a été précisé déjà. C'était quand même au Salon international de l'agriculture. C'était quand même un événement important. C'était la première fois qu'il y avait une race comme ça à faible effectif qui était présentée, qui était en tête d'affiche.
C'est la première fois qu'il y avait une race à petits effectifs qui était. Ça veut dire quand même. Alors, on va pas faire ni de politique ni quoi que ce soit. Ça veut dire quand même que les organisateurs du SIA, qui sont pas forcément tous de la Confédération et qui représentent une agriculture, voilà. Ont quand même pris conscience que finalement, à côté des races industrielles, moi je les appelle comme ça parce que c'est le terme, il y avait aussi des races patrimoniales qui avaient une vraie nécessité d'être protégées. Alors maintenant, il y a plus rien qui marche. C'est ça qui est formidable. Allez. Voilà. Voilà, allez. S'il y a un troisième ordinateur. Donc ensuite. J'en étais aux vaches. Donc, ensuite, il y a les. J'ai passé les chèvres. Ouais. Sinon, on va revenir. C'est marrant comme. En permanence, c'est toujours le vidéoprojecteur qui pose problème. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très compliqué. Il n'y a pas un technicien ici, quelqu'un qui connaît bien toute la technique, toute la connectique. Pas forcément un troisième cycle, hein, quelqu'un qui aurait une... Non ? Pas de thésard sur là-dessus ? Bon.
Je suis désolée.
Est-ce qu'on a un deuxième...
Oui, je vais aller en chercher un autre en bas. Oui.
Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être le témoignage de M. Cerclier et puis on
revient. Bah oui, mais pour Vincent, moi je... Il n'y a aucun souci pour moi, c'est pour Vincent qui avait fait aussi un très beau...
Diaporama aussi ? Ouais. D'accord.
Bon. Bah oui, on avait prévu, on nous avait dit faites un diaporama.
Il y aura le matériel, il y aura tout. Voilà. Bon. Ouais.
Non, ce qui est dingue, c'est même mon ordi a été sûrement très... Je voudrais juste redire... Non, je peux continuer sans... C'est pas un souci. Simplement, pourquoi ça... Non, le mien, il a de la batterie. Ce que je comprends pas, c'est que je n'arrive même plus à... Voilà. C'est-à-dire que tout a pété.
Quoi. FNF5, peut-être ?
Non. Les organisateurs n'ont pas bien pensé leur matériel.
Non, attendez, parce que là, on voit que là-bas,
c'est...
Vous
avez retrouvé votre image ?
Non, mais je vais la retrouver. Je pense que c'est la prise qui ne fonctionne pas. Voilà. Non, mais si vous voulez, on
ne tente pas brancher. Il n'est pas, ouais, d'accord.
Bah non, je l'ai débranché, sinon ça ne se rallumait pas. Bon, enfin bref. Je vais avancer quand même. Chez les moutons. Qui vous concerne, là aussi les moutons c'est un vrai problème puisqu'on considère à peu près qu'il y a 27 races de moutons qui sont menacées, c'est-à-dire la quasi-totalité des moutons qui sont menacés. Globalement par exemple pour les races méridionales, pour en avoir discuté avec des éleveurs, Ce qui les sauve aujourd'hui, c'est notamment la communauté musulmane qui achète pas mal de moutons pour la fête de l'Aïd, dont on a parlé. Parce que la consommation de viande de mouton en France est vraiment en chute libre. Donc vous ne verrez pas la photo, c'est pas grave. Et puis pour les cochons aussi, parce qu'il y a aussi des cochons, 7 races à peu près sur 9 sont aujourd'hui menacées. Donc vous voyez qu'on a quand même un patrimoine important, mais un patrimoine qui, globalement, est quand même menacé. Je pense qu'à la fin de notre communication, Vincent, ça marchera. C'est évidemment sans compter sur d'autres groupes d'animaux, hein, notamment, je fais juste un petit focus sur les poules, parce qu'il y a aussi des poules qui sont utilisées en éco-pâturage, des oies. Toutes les races de poules sont aujourd'hui considérées comme menacées. Pourquoi ? Parce que il y a les races de poules patrimoniales sont des races qui sont essentiellement tenues par des amateurs. Donc c'est quand même grâce au travail des amateurs qu'aujourd'hui on peut avoir encore des poules. C'est aussi le cas des oies. C'est aussi le cas des... comment ?
C'est pas gay, votre histoire.
Non, c'est pas gay, mais bon, voilà. Mais si, vous allez voir. Si, parce que... Et puis les chiens, même, il y a un certain nombre de races de chiens qui aujourd'hui sont... Bref, on a un patrimoine... Alors là, vous m'avez tout enlevé. Ça devient très difficile. Alors j'aurais plus, même plus le micro, mais j'y arriverai quand même.
On va l'enlever.
C'est pas grave, vous en faites pas. Alors, quel est l'intérêt de sauvegarder cette biodiversité ? Alors c'est très simple. Là, c'est bien parce que j'ai une slide où il n'y a pas de photo, donc... Ces races à petits effectifs, elles participent évidemment à ce qu'est l'espèce vache, ce qu'est l'espèce cheval, ce qu'est l'espèce mouton, ce qu'est l'espèce chèvre. Donc évidemment, elles jouent un rôle primordial dans la structure génétique de chacune de ces espèces. C'est-à-dire que si je prends un exemple très simple, De la Holstein. Tout le monde connaît la Holstein, qui est cette vache noire et blanc qu'on voit dans les prés et qui est la plus grosse laitière. Elle a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement génétique extrêmement faible. Sachez que c'est vachement mieux. Sauf que c'est quoi ça? Ah oui, oui, mais non, je sais. Non, ça va rester son... Alors, vous me donnez 4 secondes.
Ah non, c'est pas possible, votre machin. Là. Je pense que... Non, c'est bon. Ne bougez pas, ne touchez à rien, tout va très bien.
Ah oh bah si, il y a un faux contact.
Oui, il y a un faux contact.
Non, vous sur votre, ça ne voit rien. Moi, ça marche très bien.
Allez,
c'est bon.
C'est bon,
On y est.
Regardez.
Non, vous en faites pas.
Ah, non, mais c'est le fond d'écran.
Oui, mais c'est le fond d'écran qui a été changé par les gens de...
On peut changer.
Non, bon, on va pas.
Ah non, c'est beaucoup mieux, là.
C'était pas mon fond d'écran, mais c'est pas grave. Bref, je vous disais, pour la Holstein, par exemple, c'est très simple. Il y a 1 700 000 Holstein en France. Elles sont issues de 11 taureaux fondateurs. 11 taureaux. Donc, pas besoin d'avoir fait un troisième cycle de génétique pour comprendre le problème. La Bretonne Pinoire, 1500 vaches, 17 taureaux fondateurs. Donc, génétiquement, c'est tout vu. Donc, on a besoin de ces races à petits effectifs, de façon très claire, pour pouvoir maintenir la pérennité des races dites industrielles. Ça, c'est important. L'autre point qui est important, c'est ces races patrimoniales sont des éléments incontournables de notre terroir, de nos territoires et de nos terroirs. Ça, elles ont été forgées sur un terroir, elles ont été forgées par l'homme depuis des décennies, parce que les races ont... La réalité des races est assez récente, hein, c'est fin du 18e, début du 19e, donc c'est assez... Voilà. Donc, elles sont aussi souvent indissolublement liées à des produits. Le gouel breton, il est avec la Bretonne Pinoire. Le beurre de Jersey, c'est la Jerseyaise. Le fromage de bête mâle, c'est la race Casta, enfin, etc. Il y a donc des produits qui sont liés à ces races. Le camembert est fait quand même au départ avec la race normande, et aujourd'hui d'ailleurs le camembert AOP, doit être fait avec du lait de vache normande et non pas de Holstein. Il y a évidemment un intérêt croissant du public pour justement, dans le cadre de circuits courts, etc., de consommer local, de consommer des produits qui sont traçables, dont on connaît les origines. Et les races, effectivement, patrimoniales, y contribuent. Et puis, c'est tout ce circuit court, cette production bio, qui est plus qu'une mode, qui a, je pense, véritablement quitté les pourtours des bobos parisiens pour véritablement rentrer dans le processus et dans le comportement alimentaire de Français de plus en plus. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, les races patrimoniales répondent parfaitement à toutes ces nouvelles demandes. Alors, ça, c'est un point. Maintenant, c'est la biodiversité domestique et son rapport avec l'éco-pâturage. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'éco-pâturage est un phénomène récent ? Non, ça a été abordé. J'aime beaucoup cette photo. Alors, je ne sais pas si vous la verrez peu, mais c'est pas grave. C'est Paris, ça. Ça veut dire qu'au début du XXe siècle, on pratiquait l'éco-pâturage à Paris. Avant, sans le savoir, évidemment. C'est les anciennes forteresses qui dataient de 1870 qui devaient être entretenues, et les gens, avec leurs vaches, entretenaient juste tout autour de Paris, enfin dans Paris même, mettaient des vaches pour entretenir ces milieux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et puis il y a eu ensuite la ville qui a poussé petit à petit la campagne. Là, on est en banlieue sud de Paris, vers Évry, dans les années 60. On voit les immeubles qui poussent peu à peu les vaches vers la périphérie. Donc, évidemment, les éleveurs qui ont fait le choix d'élever des races à petits effectifs, c'est courageux. C'est, même si c'est un autre sujet, c'est finalement beaucoup, beaucoup plus rentable aujourd'hui de valoriser des races à petits effectifs que d'avoir un troupeau de 120 laitières à payer son lait un prix imbattablement bas et avoir plein de sous à rembourser à sa banque. Mais bon, il cherche aussi, évidemment, à valoriser. Et ces races patrimoniales peuvent devenir des races patrimoniales citadines. Ce qui va donner d'abord, pour l'éleveur, une meilleure visibilité et va permettre aussi une sensibilisation du public. Qui, on a parlé, par exemple, du mouton Land de Bretagne, on a parlé des moutons de Ouessant, mais ça peut être bien d'autres. Ça donne une sensibilité, c'est-à-dire qu'on explique aux gens, aux enfants, vers le public, vers les écoles, vers les décideurs, pourquoi on a mis une race à petit effectif, une race patrimoniale, et on peut expliquer cette histoire de cette race. Et les gens, vous savez, quand on leur explique que l'animal qu'on a mis, on a mis des chèvres, ok, mais on a mis des chèvres des fossés, et cette chèvre des fossés, elle a une histoire que l'on raconte. Dès qu'on raconte une histoire aux gens, qu'on relie l'animal qu'ils ont devant eux à son histoire, on les sensibilise. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui me semble très important. L'avantage aussi des races rustiques, c'est qu'évidemment, ils ont une adaptation beaucoup plus facile, à exploiter des milieux qui peuvent être compliqués, difficiles, qu'une race industrielle, d'une race qui a été poussée à fond et qui n'a pas du tout la possibilité de se nourrir correctement ou d'accéder à des milieux qui peuvent être compliqués. Ça, c'est un avantage très important. Et puis, on peut utiliser donc des races patrimoniales pour valoriser les produits. Alors, je ne sais pas du tout si ça se fait. D'ailleurs, c'est presque une question que je pose au public. C'est que, est-ce que, par exemple, il peut y avoir, entre l'éleveur et, par exemple, la municipalité, une possibilité de valoriser les produits. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, dans des villes, des petites agglomérations, les moutons, les chèvres, les vaches, quand il faut les abattre, parce qu'on ne les élève pas juste pour le plaisir, est-ce que, par exemple, la viande peut-être ensuite être destinée aux cantines pour les enfants la cantine d'un établissement public, etc. Est-ce qu'il y a une valorisation? Parce que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi, notamment, c'est en milieu bio, c'est-à-dire de proposer des produits, ou même les produits laitiers, quand vous faire du fromage de chèvre avec des chèvres. Et donc de proposer ces produits à la consommation locale de la ville où elle se trouve. Parce que là encore, les produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont une histoire. Et donc c'est intéressant de faire comprendre aux gens qu'on va manger du fromage de chèvre défaussé et que depuis toujours dans l'Ouest, il y avait un certain type de fromage de chèvre qui se faisait. Et les gens sont heureux et contents de découvrir qu'ils peuvent manger ces produits. Comme je vous l'ai dit aussi, faire la démarche d'accueillir des races à petits effectifs en milieu urbain, c'est aussi créer un peu partout des micro-conservatoires. Et ce sont ces micro-conservatoires qui vont évidemment contribuer à la pérennité, à la sauvegarde, à la conservation de ces races. Donc là aussi, il y a un rôle très important pour les décideurs, pour les personnes qui s'occupent au sein d'une municipalité de cette problématique. Eh bien, ils ont un rôle de conservateur qui est extrêmement important. Et puis, il faut faire passer le message de l'importance de la biodiversité. La biodiversité, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important. Sans biodiversité, pas d'homme. Il n'y a pas de secret, on ne fera pas de parenthèse, mais on ne parle plus du tout de biodiversité dans la campagne présidentielle qui s'annonce. Alors que la biodiversité, elle est primordiale. On parlait des abeilles, mais on peut parler de tout, des écosystèmes. La biodiversité, comme vous le savez, c'est pas que les espèces ou les races, c'est aussi les écosystèmes et c'est aussi tout le patrimoine génétique, ce sont les gènes. Et si on n'entretient pas cette biodiversité, on scie la branche sur laquelle on est assis. Et donc, faire passer le message de l'intérêt de la biodiversité, on s'est aperçu, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, c'est beaucoup plus facile de faire passer l'idée de ce qu'est la biodiversité à travers les races domestiques, parce que nous, Français, nous avons une histoire paysanne qui nous est... Enfin, ici, dans l'Assemblée, 80% des gens ont au moins un arrière-grand-père qui devait être éleveur. Donc, les gens comprennent bien mieux l'intérêt de la biodiversité quand on le fait passer à travers l'histoire d'une chèvre, d'un cheval ou d'une poule que lorsqu'on commence à leur parler d'une guilde d'oiseaux frugivores de la forêt amazonienne. Ben oui, mais voilà, il y a des pays comme en Angleterre où ça passe très bien. Chez nous, on est beaucoup plus les pieds dans la glaise, pour ça qu'on a choisi le coq. Et donc, cette biodiversité domestique, c'est quelque chose qui est un vecteur très important pour faire comprendre ce que c'est la biodiversité. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose. Et puis, ça donne aussi un accroissement de la bienveillance par rapport à cette problématique. Les gens se sentent concernés. Ils se sentent concernés par les Landes de Bretagne qui sont chez eux à deux pas de l'école de leurs enfants. Ils sont concernés par les oies du Cotentin qu'on a mis dans un petit endroit en clos pour l'entretenir, etc. Voilà. C'est donc une réappropriation par les citoyens de cette biodiversité domestique qui nous est collective. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que... Les citoyens deviennent responsables, co-responsables avec vous qui êtes souvent des... Donc, lorsque vous travaillez dans les municipalités, ils se sentiront co-responsables avec vous de l'entretien de ces milieux et de l'entretien des races qui les gèrent. Et donc, évidemment, tout redevient possible. On retombe sur les pattes de la précédente intervention. C'est-à-dire que le retour de cet animal dans la ville peut prendre toutes les formes possibles. Et on peut faire des tas de choses. Et même, peut-être, que vous pourrez organiser des concours de sauts d'obstacles de bovins ou de moutons avec les citoyens de votre commune. Voilà. Grosso modo, rapidement fait. Je suis désolé pour la technique. Et je passe la parole à Vincent.
Juste un mot avant. Peut-être Philippe-Jacques Dubois, peut-être juste.
Rien ne marche, effectivement, si ce n'est les intervenants. Merci pour cette belle intervention. Je rappelle votre livre. Et c'est vrai que je voudrais quand même que vous nous illustriez par un exemple. On va voir tout à l'heure des collectivités qui vont dire... Voilà, tous les l'écho, tout ce que vous avez dit, l'intérêt d'avoir l'animal avec la population, ces races rustiques. Mais quand même, nous, en Entretien Nature et Territoire, nous sommes une association donc basée en Mayenne. En Mayenne, on sait ce que c'est que d'avoir perdu une race. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a pris cette conscience-là, je pense qu'on voit les choses différemment. Et c'est vous qui nous avez alerté sur cette question. Ça s'est fait dans l'indifférence générale. On a vraiment, personne s'en était préoccupé de cette race, c'était la bleue de Bazougé. Et finalement, aujourd'hui, elle est disparue et je crois qu'on est beaucoup à s'en mordre les doigts. Donc avant qu'il ne soit trop tard, bravo à tous ceux qui agissent pour les préserver et bravo à vous de nous alerter.
Oui, juste effectivement ce que vous dites. La dernière race qui a disparu définitivement de France, la dernière en date, c'est effectivement une vache qui s'appelait la bleue de Bazougé, dont le dernier animal est mort en novembre 2015. Comme vous le disiez très, très justement, dans l'indifférence totalement générale. C'était une race qui était originaire de la région de Bazougé, que les autorités n'ont jamais voulu reconnaître et qui pourtant était une race qui était extrêmement bien typée, etc. Elle a disparu, terminée. Il faut savoir que quand une race disparaît, c'est un morceau de l'espèce qui disparaît, puisque cette race avait évidemment des caractéristiques génétiques qui lui étaient propres. Et que ces gènes, cette partie du génome global de l'espèce vache, a disparu à tout jamais. Et il y a d'autres races qui aujourd'hui sont, c'est un autre sujet, mais qui sont aujourd'hui en grand danger. Et effectivement, il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui disparaissent dans cette même indifférence.
Et pour cela, merci aux éleveurs qui s'investissent comme vous sur la conservation des Landes de Bretagne, même si c'est quand même moins menacé. Mais donc Vincent Cerclier, vous êtes à la fois éleveur de moutons, donc Landes de Bretagne, installé en Loire-Atlantique, mais vous êtes aussi prestataire en éco-pâturage. Alors je crois que ce sont deux métiers différents. Vous allez nous faire voir justement quels sont les liens, peut-être les différences entre les deux. Et je sais que vous m'avez dit, moi je suis avant tout éleveur, et quand on fait de l'éco-pâturage, on se doit aussi d'être exemplaire, parce que finalement, c'est quelque part un peu l'image de l'agriculture, le contact des urbains avec l'agriculture, et donc on se doit d'être exemplaire. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel vous tenez.
Vous avez tout résumé, c'est bon. Merci. Non, c'est exactement ça. Donc Vincent Cerclier, donc moi ça fait 2 ans que je fais de l'éco-pâturage, enfin, fin 2015, et suite à une reconversion professionnelle, donc sur le nord de Nantes. Donc du coup aujourd'hui l'agriculture et l'éco-pâturage, pour moi quand j'ai eu cette idée de partir sur l'éco-pâturage, d'abord c'était l'idée d'être éleveur, c'était de d'abord connaître l'animal. Pour moi c'est vraiment la première entrée. J'ai fait ce petit schéma pour vous montrer pour moi où je suis l'éco-pâturage. D'abord, on a l'agriculture. Si on veut faire de l'éco-pâturage et si on veut avoir une production que ce soit voilà, du lait, de la viande, faire des reproducteurs ou faire de l'éco-pâturage, d'abord, il faut avoir une entrée agriculture ou éleveur. Alors qu'on vienne de différents domaines, si on a qu'on soit une commune, qu'on ait une personne vraiment maîtrisant l'agriculture, puisque pour avoir des beaux animaux, il faut maîtriser l'alimentation, la santé animale, la reproduction, il faut savoir gérer du pâturage. Les notions de bien-être animal qui, en ce moment, sont vraiment à l'honneur, avec tout ce qu'on entend sur la maltraitance, savoir gérer des troupeaux. Et ensuite, quand on a toutes ces notions, on peut faire de la production et on peut mettre en place un éco-pâturage. Ça reste ma vision, mais c'est vraiment l'approche que j'ai voulu en avoir de ce monde. Donc moi, je travaille avec des brebis landes de Bretagne, une race qui est donc une race rustique qui est menacée, et c'est une race qui est adaptée au territoire. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai rencontré pas mal d'éleveurs. Ils m'ont dit, si tu veux te lancer dans le mouton ou dans l'élevage, il faut déjà choisir une race qui a été habituée à notre climat, à notre zone. Donc j'ai regardé plusieurs races qui existaient dans mon secteur. Il faut aussi choisir une race qui plaît à l'éleveur, travailler avec une race qui vraiment nous donne l'envie de travailler, comme ça on a de meilleurs résultats. Et donc je suis parti sur le Land de Bretagne qui avait pour moi toutes ces qualités. Alors il y a d'autres races, mais voilà, c'était la race que j'ai choisie. Et donc ce diapo pour en venir, voilà, quand on maîtrise vraiment la santé animale, l'alimentation, ce monde de l'élevage, on doit avoir des animaux en bonne santé, qui est pour moi le premier facteur de réussite sur l'activité. Faut bien se mettre en tête que nos animaux sont très regardés. Quand on est sur notre ferme et qu'on a nos animaux sur notre ferme, chacun fait ce qu'il veut sur sa ferme. Par contre, quand on est en éco-pâturage, on a des animaux qui sont regardés tous les jours. Et on se doit d'avoir voilà, des animaux en bonne santé. Parce que l'info, elle remonte très vite. Et je pense que l'activité d'éco-pâturage, si malheureusement il y a des animaux en mauvais état, des animaux malades, des animaux qui décèdent, l'activité d'éco-pâturage va en prendre un coup sur l'image. Donc c'est vraiment très important. Et donc la question, c'était vraiment comment mettre en place et comment ça peut être une alliance durable entre l'activité agricole et l'éco-pâturage. Donc ça, plusieurs solutions possibles. Moi, j'ai choisi du coup mon activité où j'ai un troupeau sur ma ferme qui va être dédié à l'éco-pâturage. Les animaux mènent une vie tranquillement pour aller entretenir les sites. Et à côté, j'ai ma ferme où là, je produis de l'agneau. Donc je reviens à la question que posait Philippe tout à l'heure sur est-ce qu'on peut mettre en place une filière viande au sein des communes. Moi, j'ai la vie où je viens avec 2 étiquettes. Quand je viens voir une commune, malheureusement pour la race Land de Bretagne, mais je parle surtout pas de viande, dans le but d'éviter les vols évidemment sur les sites, on essaye de minimiser donc la communication, c'est un peu dommage, mais la communication sur les sites en éco-pâturage que j'amène, c'est plutôt essayer de parler à la population que ces animaux ils se mangent pas trop, ils sont pas très bons, mais par contre si vous voulez de la viande de mouton, vous venez chez moi sur ma ferme, j'ai un troupeau, j'ai la même race ou j'ai une autre race ou je travaille différemment, mais je peux vous vendre là de la viande. Par contre, quand on est sur les sites, je fais attention à la communication. On essaye de minimiser les convoitises sur ces animaux. Donc voilà comment j'oriente moi ma production entre un troupeau dédié à l'éco-pâturage et un troupeau sur la ferme. Je considère que pour aussi avoir des jolis agneaux et des beaux agneaux qu'on peut vendre en caissette, les animaux, il faut les avoir tout le temps sous ses yeux. les éleveurs vous le diront, faire des beaux agneaux pour produire de la bonne viande avec des animaux qui se trouvent sur des sites où on ne les voit pas tous les jours, c'est vraiment difficile. Donc il y a un métier d'éleveur qui est de produire de la viande. Il y a une activité d'éco-pâturage. Marier les deux, moi, je ne souhaite pas le faire. Maintenant, voilà. Voilà, c'est ça. Je considère que mes animaux qui sont pour faire de la viande restent à la maison. Donc, j'ai une partie du troupeau qui ne bouge pas de la ferme, qui reste à la maison. Et comme ça, les agneaux grandissent sur la ferme. Je les vois tous les jours. Je les change de parcelle. Je les mets sur les meilleures parcelles à la maison. C'est vraiment dans l'idée. Ça, c'est le métier d'éleveur pour proposer la meilleure viande possible. Maintenant, les animaux en éco-pâturage, eux, c'est un troupeau qui est fait pour entretenir. On demande justement d'aller, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des terrains peut-être plus pauvres. Donc ces races rustiques sont capables de le faire, mais on ne va pas demander du coup à des jolis agneaux d'aller bien grossir sur des terrains un peu plus sur des landes, sur des terrains un petit peu plus pauvres. On laisse justement ces bêtes faire leur travail, elles se nourrissent tranquillement, et on les laisse pâturer sur les sites en adaptant toujours le nombre d'animaux en fonction de la surface, en fonction des saisons. Et c'est le but de l'éco-pâturage. Voilà pour mon intervention après. Si vous avez des questions.
Bon, c'est une intervention courte, c'est bien. Alors, je vais inviter les gens, comme vous avez vu qu'on avait des problèmes de micro, ceux qui veulent poser des questions, il y a des places devant. Si vous voulez vous approcher ici, comme ça vous pourrez venir poser votre question devant la salle, ça sera très bien, si vous voulez. Et pendant ce temps-là, je vais vous poser quelques questions, moi encore un peu, parce que vous avez dit que vous faites de l'éco-pâturage, vous le faites avec des clients. Ces clients, ce sont quoi, des collectivités, des entreprises avec qui vous travaillez?
Donc, principalement, voilà, des collectivités, des communes, des communautés de communes et des entreprises du secteur où je suis installé. L'idée, c'est vraiment d'être en local, c'est d'aller. Je me suis fixé un rayon avec plusieurs éleveurs de 60 km autour de notre lieu d'habitation. L'idée, c'est pas d'aller faire de la route pour mettre des animaux à 300, 400 km de notre lieu d'habitation. Je vois pas comment on peut surveiller ces animaux. L'idée, c'est vraiment d'être en local et de. Si d'un côté on enlève les tondeuses, c'est pas pour que moi je passe du temps dans la voiture pour aller voir mes animaux.
Vous dites on s'est fixé cet objectif avec d'autres éleveurs, c'est-à-dire que vous avez une petite fédération, un petit groupe, un petit collectif justement d'acteurs de l'éco-pâturage en Loire-Atlantique?
Exactement, on s'est regroupé avec trois éleveurs début 2016, dont Régis qui est ici. Puisque c'est vrai que on a vu la différence entre fin 2015, quand moi j'ai commencé l'activité, voire début 2016, ou quand j'appelais des communes, des entreprises, le mot éco-pâturage, certains connaissaient encore à peine, jusqu'à, on va dire, fin d'année 2016, où éco-pâturage, on va dire, tout le monde connaît, en 6 mois, on a vu la différence. Et du coup, quand on s'est retrouvé donc avec Régis et puis Fabien, un autre éleveur sur Pornic, par le biais de la race, ça a été une coïncidence, mais... On a voulu tous les trois faire de l'éco-pâturage et du coup cette idée vraiment de local nous a vraiment rassemblé comme valeur, nos valeurs communes, de local, de race à petits effectifs, rustiques, et du coup on s'est, et aussi pour promouvoir cette communication autour de l'éco-pâturage, on s'est dit autant faire quelque chose, donc on a monté une petite association qui s'appelle Éco-pâturage Paysan 44 et dans l'idée de communiquer sur l'éco-pâturage local dans le 44.
Alors justement, communiquer, comment vous le faites? J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'éco-pâturage, il y a la presse qui vient vous voir. Ce lien avec la population, c'est aussi par la presse que ça se fait?
Alors oui, par la presse. C'est vrai que quand on amène les animaux sur les sites, sur des nouveaux contrats, il peut y avoir la presse qui vient. Donc voilà, cette idée de communication. Ou si moi, mettons, j'ai une commune qui m'appelle ou une entreprise qui est à l'opposé du département, c'est... Comme je l'ai dit, c'est pas mon rôle d'aller faire 100 km pour y mettre des animaux. Je leur dis prenez plutôt contact avec un autre éleveur qui est plus proche de chez vous, qui pourra gérer au mieux ce contrat d'éco-pâturage.
Et justement, ce contrat, est-ce que votre association, votre collectif, ça a été jusqu'à avoir un peu les mêmes clauses, les mêmes pratiques? Je sais que d'un département à l'autre, les choses sont différentes. J'ai rencontré récemment, c'était le week-end dernier, un éleveur de brebis en Mayenne qui me disait malheureusement, nous, dans notre département, c'est gratuit. Si j'habitais en Loire-Atlantique, je serais payé pour faire cette prestation. Et c'est un travail, ça demande du temps, etc. Mais chez nous, c'est gratuit, donc j'en fais pas. Vous, est-ce que vous harmonisez un peu aussi vos pratiques?
Alors, on est vraiment chacun indépendant sur nos pratiques, sur nos tarifs, sur comment on organise notre production sur la ferme, sur l'éco-pâturage. Moi, j'ai pris, je vous ai expliqué comment je réalise mes deux activités. Chacun est libre de faire. Voilà, on ne s'est pas fixé une pratique commune, un tarif commun. Ça, voilà, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, vous avez dit par rapport au département du Maine-et-Loire où la prestation est gratuite, c'est ça?
C'est en Mayenne.
En Mayenne, d'accord. On a vraiment fait la différence, nous, entre enfin, notre définition qu'on s'est fixée entre écopâturage et écopastoralisme. Écopâturage, on est souvent sur des, enfin, tout le temps sur des parcelles plutôt en zone urbaine qui ont été délaissées de l'agriculture. Donc c'est une prestation de service payante d'entretien d'espaces verts, différente de l'écopastoralisme, où c'est plutôt sur des parcelles mises à disposition par des collectivités, des parcelles agricoles, où là un éleveur peut vivre de sa production et toucher les primes PAC de l'agriculture. Sur l'éco-pâturage, on n'a pas, voilà, on n'a pas cette notion d'aide agricole, de production sur ces parcelles, quoi.
Et concrètement, un suivi, est-ce que vous pouvez nous présenter comment ça se passe? Vous avez dit on apporte les animaux sur place, mais vous y allez combien de fois? Comment ça se passe? Il faut être souvent auprès des animaux. Concrètement, c'est quoi votre métier de prestataire en éco-pâturage?
Donc quand moi je mets les animaux sur une saison de pousse de l'herbe, donc de là je vais commencer dès demain, ça y est, les animaux partent, on va dire du mois d'avril au mois de novembre, les animaux vont rester sur ces 8 mois de pâturage et j'adapte le nombre d'animaux en fonction des saisons et de la pousse de l'herbe. Là au printemps l'herbe ça va bien partir, donc le chargement est un petit peu plus élevé, on enlève à l'été, on diminue un petit peu plutôt à l'été. Et on augmente un petit peu l'effectif au mois d'octobre-novembre, toujours en discussion avec les responsables de l'entreprise, avec les collectivités sur le rendu attendu. Mais on explique bien que le but du jeu, c'est pas que l'herbe soit rase au mois de juin. Il faut passer l'été. Il faut que les animaux aient encore à manger pour passer l'été. Donc voilà. Et ensuite, j'organise mes visites quand je mets mes animaux. Et officiellement, je vais voir mes animaux tous les 10 jours à peu près. Plus quand je suis dans le coin autour de mes sites le week-end ou voilà, je me balade, je peux passer les voir aussi. Et ce qui m'intéresse vraiment quand je fais de l'éco-pâturage, c'est quand je sens je le dis toujours, une volonté vraiment de l'entreprise, de la commune, enfin du client, du partenaire pour avoir de l'éco-pâturage, pour avoir ces animaux. On gère du vivant. Comme je dis, moi je n'utilise jamais le mot tondeuse, je ne gère pas des tondeuses à la maison, je gère des animaux, je gère du vivant. Et donc, on est vraiment ensemble, on est plutôt partenaire de cette prestation, et je demande à ce que les animaux soient regardés un peu. Donc je demande pas grand chose, je dis mettons sur une commune, est-ce que vous passez une fois par semaine, et je vous demande juste est-ce qu'il y a toujours mes 4-5 animaux, est-ce qu'il me reste un petit peu d'eau, et puis est-ce qu'il y a de l'eau, et puis les clôtures, on est tous un petit coup d'œil. Sur une entreprise ça se fait très bien aussi, les gens quand ils arrivent le matin, les moutons sont à côté du parking, on voit bien le nombre qu'il y a, on voit bien les moutons, donc il y a vraiment cette idée de tous ensemble, on regarde les moutons et en fait ça se fait naturellement et c'est ça qui est vraiment très agréable.
Donc vous l'avez dit, ça a explosé hein, l'éco-pâturage ces dernières années, ça fait déjà quelques années, mais c'est vrai que d'autant plus, aujourd'hui c'est un troupeau de combien de mères que vous avez justement en éco-pâturage?
Donc moi j'ai un troupeau de 110 brebis, j'ai commencé l'année dernière, donc fin 2015 avec une cinquantaine de brebis. Avec mes premiers contrats, cette année j'ai doublé, donc l'idée c'est de... mon troupeau est plus dédié en ce moment à l'éco-pâturage et doucement je commence l'activité viande, et c'est voilà, c'est comme ça que j'organise, ce qui est en phase de croissance, les naissances que j'ai eu l'année dernière servent à augmenter mon cheptel, donc pour l'instant plus de l'éco-pâturage que d'activité viande, mais ça se met tranquillement en place.
En tout cas, bravo, parce qu'on le voit, ça démarre très vite et très bien. Merci pour ce témoignage. Alors, oui, on peut l'applaudir, effectivement. On peut les applaudir. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Philippe-Jacques Dubois, monsieur? Alors, si vous voulez approcher, peut-être.
Comme ça.
Comment? Ah oui, d'accord. Alors, première question, voilà.
Bonjour, Jean-Marc Desforges, ville de Panazol, donc en recherche de faisabilité ou d'implantation d'éco-pâturage. Une question financièrement, le coût d'une prestation d'éco-pâturage à l'hectare, de préférence.
La question, c'est pas facile d'y répondre. Puisque quand j'ai démarré l'éco-pâturage il y a 2 ans, il y a plusieurs façons de définir un prix. Soit on regarde ce que font les voisins, on essaie de se définir un prix. Comme là, il n'y avait pas forcément de voisins ou de concurrence. Donc estimer ses revenus et on arrive à peu près à ses charges, estimer voilà ce qu'on veut faire de l'éco-pâturage, à peu près à du 30 centimes du mètre carré sur une prestation, 30-35 centimes, ça revient à peu près. Alors après, il y a des panels, il y a de tout qui se fait. Hein. Quand j'ai regardé au début ce qui se faisait, en fonction des régions, ça allait de 7 centimes à 70 centimes. Donc par an. Voilà, c'est ça. Donc ça vous donne un large panel. Ceux qui font du 7 centimes, je ne sais pas comment ils gagnent leur vie. C'était plus, voilà, je pense, du début de prestation où on avait des animaux en trop et on les mettait voilà sur un terrain à côté, moyennant quelques petites choses. Des prix un peu élevés, peut-être plus en région parisienne, il y a un large panel de tarifs. Donc,
Merci pour cette précision. Une question pour Philippe Jacques Dubois.
Oui, bonjour, Régis Frénaud, donc de Crapal, Conservatoire des races animales en Pays de la Loire, et aussi président de l'éco-pâturage Paysan 44, mais c'est surtout pour Philippe Jacques Dubois, mais c'est pas une question, c'est plus une... je voulais insister sur ce qu'il a dit sur 2 points. D'abord, sur le côté race menacée, quelqu'un a dit que c'était un petit peu triste ou pessimiste, mais en fait, la qualification race menacée, c'est une qualification dont on est tributaire, hein, non, c'est plutôt l'Europe qui a défini ça, mais en fait c'est plutôt en fonction de la dynamique de chaque race qu'il faut voir ça, et c'est vrai qu'il y a des races à 20 000 animaux, 20 000 moutons qui est plus menacée qu'une race à 2 500, ça dépend de la courbe de croissance, quoi. Enfin dans quel sens est la courbe, quoi. Et la deuxième chose, c'est insister sur ce qu'il a dit par rapport à la conservation dynamique et active des races. Je pense que les races en conservation qui sont à petit effectif, ben, doivent se reproduire. Et je pense qu'il faut insister, même en éco-pâturage, vous servirez la conservation des races si vous faites reproduire en race pure en permanence ces races-là. Et je pense qu'il faut insister un peu là-dessus. Merci.
C'est vrai que tout à l'heure, ça avait l'air d'être un peu plus une liste mortuaire. Pas du tout. En termes de biodiversité, il se trouve que je suis écologue et que je travaille aussi sur la biodiversité sauvage, et je peux vous dire que je suis infiniment plus optimiste sur l'avenir de la biodiversité domestique que sur l'avenir de la biodiversité sauvage. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça doit être? Non, véritablement, il y a plus qu'un engouement, il y a de plus en plus de jeunes éleveurs qui s'installent et qui ont fait le choix d'avoir des races à petits effectifs. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années, je ne sais plus par quel organisme, qui montrait que 30 vaches bretonnes pinoires rapportaient plus par an à son éleveur que 100 Holstein. Voilà. Pourquoi ? Parce que, alors c'est très simple, une bretonne pinoire, ça fait que 10 litres ou 12 litres par jour, mais ça fait 14 lactations. Elle ne voit jamais le vétérinaire. Une Holstein... Je vous rappelle qu'une Holstein fait moins de 2 lactations avant d'aller finir en steak chez Charal. Elle aura eu des difficultés de vélage souvent, plus de 60%. Elle aura vu le vétérinaire beaucoup plus qu'à son tour. Alors certes, elle va faire 30-40 litres par jour, mais au final, vous faites un calcul, il n'y a pas besoin non plus là d'être un grand comptable pour s'apercevoir que les gens qui choisissent les races à petits effectifs gagnent mieux leur vie, sont plus heureux. C'est les seuls que j'ai rencontrés, moi, qui prenaient des vacances. Hein. Donc, véritablement, le choix des races à petits effectifs, c'est le choix de l'avenir, même si, ne soyons pas non plus naïfs, on ne pourra pas nourrir toute la planète avec essentiellement des races à petits effectifs. Le seul problème, et c'est un tout autre sujet qui vous concerne peut-être pas, c'est que c'est vrai que dans 30 ans, il ne faut pas se voiler la face, dans 30 ans, les deux types d'éleveurs qu'il y aura, c'est ceux qui seront... qui auront 1000 ou 10 000 vaches, hein. Et puis ça sera ceux qui auront fait le choix de fermes de proximité, du circuit court, du bio, les races à petits effectifs, parce que les gens veulent, ils veulent plus manger n'importe quoi. Malheureusement, c'est qu'au milieu, il y a 80% d'éleveurs et d'agriculteurs conventionnels qui vont bien être obligés de se recycler s'ils y arrivent. Voilà, c'est un véritable problème, c'est un autre enjeu, etc. Mais je suis très optimiste pour les races à petits effectifs. Voilà, parce que toutes les races à petits effectifs sont fragiles, mais la plupart augmentent quand même, lentement mais sûrement.
Alors, restez parce qu'il y a une question pour vous également.
Bonjour, Françoise Lumallet, Institut français du cheval et de l'équitation. On accompagne souvent des collectivités, nous, pour écrire des cahiers des charges de marché public, pour le cheval, en l'occurrence, beaucoup, évidemment, c'est notre spécialité. Et la question se pose sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut en faire une clause dans les marchés publics sur la biodiversité domestique, par exemple, imposer à une collectivité bretonne de recourir au cheval breton et pas à n'importe quel cheval en faisant vraiment une clause marché public. Est-ce que vous avez connaissance de ça ou pas ? Oui, mais je cherche la réponse. Donc, si quelqu'un dans la salle a l'information, je suis vraiment intéressée. La question, c'est la préférence. Hein, et l'Europe est très vigilante par rapport aux préférences concurrentielles. Et donc... Alors néanmoins, les clauses biodiversité dans les marchés publics sont nouvelles. Et est-ce que biodiversité domestique, ça peut rentrer dans biodiversité ? Je lance le débat et je suis preneuse de l'info. Non, mais dès qu'on est en marché au-dessus, effectivement, des seuils de 25 000 euros, par exemple, hein, donc... On les achète pas forcément, ça peut être de la prestation de service, c'est-à-dire prestation de débardage en traction animale sur un marché à bon de commande pour un conseil régional. On est facilement à ces montants-là, voire au-dessus. Hein, donc on va vite atteindre ces seuils-là. Et c'est un vrai débouché pour les prestataires et c'est une vraie question.
Effectivement, vraie question. Quelqu'un a la réponse dans la salle ou pas sur cette clause biodiversité ? Oui, peut-être, madame ?
J'ai pas la réponse, mais par contre, je pense qu'il faut pas l'aborder sous l'angle de la clause. Il faut parler dans votre cahier des charges du fait que vous êtes sur l'objectif de biodiversité locale. Donc, implicitement, ça veut dire que vous demandez aux prestataires d'utiliser les races locales. Et vous avez peut-être même pas à le préciser laquelle, mais en fait, de fait, il y en a qu'une. Donc, je pense qu'il faut... Pour moi, c'est pas une clause, c'est le cahier des charges. Vous avez un objectif de maintenir et de préserver la biodiversité locale, donc vous faites appel à des races locales. Ouais. Mais ce n'est pas un critère, c'est-à-dire que votre cahier des charges a un objectif, la biodiversité locale. Point. En fait, il ne faut pas en faire un critère ou une clause, il ne faut surtout pas le closer. Vous avez un cahier des charges, vous avez un objectif de développer la biodiversité locale, le prestataire doit y répondre, donc utiliser les races locales.
Je précise que c'est la communauté d'agglomération de La Rochelle qui donne l'information. D'autres ? Non ? Alors, il y avait une autre question, monsieur, si vous voulez approcher. Vous aviez quelque chose à ajouter sur la réponse ? Non ?
Bonjour à tous, Paul Riga du CREGEN, alors homologue du CRAPAL, Conservatoire des ressources génétiques sur l'ancien Poitou-Charentes. Alors juste pour appuyer juste cette remarque, effectivement ça peut être par rapport à des marchés publics ou autres, ça peut être un critère qui favorise notamment les races locales qui de l'autre côté sont plus adaptées dans certains cas à l'entretien des prairies sur du local. Donc effectivement, faire rentrer ça dans les critères, je pense, c'est un plus vis-à-vis des collectivités qui vont dans le sens du développement de la biodiversité domestique. Alors, une question pour l'éleveur. Tout à l'heure, vous parliez d'éléments de langage et de communication particulière, donc pas trop de communication pour éviter, si j'ai bien compris, c'est ça, le vol d'animaux. Là, voilà, la consommation d'animaux. Est-ce qu'il y a aussi... alors ça, bon, c'est un risque apparemment qui est pas à négliger sur le milieu urbain. On avait d'ailleurs eu des exemples, nous, par le passé, sur la ville de La Rochelle, avec des mauvaises expériences, notamment sur des chevaux qui avaient été abattus. Enfin bref, c'est les cas particuliers qui font que des fois, ça fonctionne pas. Mais par rapport à ces éléments de langage, est-ce qu'il y a aussi... un attachement de la population ou des gens qui vont venir voir ce troupeau. Et du coup, quand on leur dit, bah oui, mais avoir un troupeau sur l'entretien, c'est bien, mais il faut qu'on consomme, il faut qu'on mange ces animaux. Est-ce que ça, vous êtes confronté aussi à des éléments de langage et notamment à une prise de conscience, alors on le voit avec tous les débats qui sont actuellement, du bien-être animal et de toutes ces choses-là. Donc, est-ce que c'est un paramètre important de votre métier ? En tant que éco-pâturage, ou est-ce que c'est quelque chose où vous n'êtes pas encore trop confronté, en sachant qu'on a, sur les races locales, on a aussi ce dialogue-là. Quand on arrive, il faut sauver les races. Bah oui, mais pourquoi vous les mangez? Bah, c'est toute l'ambiguïté de la communication. Mais effectivement, mangeons des races locales et on pourra les sauver pour relayer le message. Donc c'est juste sur les aspects communication. Comment vous appréhendez ça et est-ce que vous y êtes confronté aujourd'hui avec les sujets qu'on entend partout sur les véganes et autres notamment?
Donc moi justement ma communication elle est claire sur les sites quand c'est pour ça que je dissocie bien mon troupeau en éco-pâturage et un petit troupeau moitié-moitié où voilà pour l'instant c'est presque 80% en éco-pâturage et 20% destiné à la viande. C'est la communication que je mets en place. Quand les enfants viennent voir les petits animaux sur les sites, les petits agneaux ou les petits, c'est pas cela que vous allez pouvoir avoir dans vos assiettes plus tard. Si vous voulez des animaux, vous venez sur la ferme et après le lien, il se fait forcément ou pas voilà, au niveau des gens. Mais il y a les animaux en éco-pâturage, ceux-là ils mènent une vie tranquillement, ils entretiennent les espaces verts. Ensuite vous venez à la maison, vous venez sur la ferme et là on discute, on va voir la race, on va regarder les petits agneaux et c'est la communication que je mets en place.
Allez, encore une question ou deux. On va commencer, monsieur, si vous l'approchez.
Oui, c'est une question un peu pour vous deux. Voilà, moi, je me présente. En fait, je suis éleveur de brebis laitières dans l'Indre-et-Loire. Et je suis aussi le berger d'une association où on fait de l'éco-pâturage et de l'éco-pastoralisme. Et du coup, en fait, en Indre-et-Loire, on n'a pas de race locale. Ouais. Du coup, c'est... en mouton, non. En chèvre, la chèvre des fossés. En vache, on n'a rien. On a le cochon. Et voilà. Donc, en fait, ça m'amène à un point. C'est que race locale, race rustique, en Indre-et-Loire, on en est pourvu. Donc, en fait, moi, je me considère un peu dans une artificialisation de rapporter une race locale, donc qui est la solognotte. Parce que les brebis laitières, j'ai pris la lacone. J'ai pas fait du tout ce choix de la rusticité proprement dite. Et donc du coup, moi ça m'amène plutôt à une réflexion sur le mode d'élevage que l'on met en place en fait par rapport à une race, parce qu'une race locale est rustique. Moi je considère qu'une race rustique, c'est une race pour laquelle on conserve ses aptitudes à la rusticité. Parce que rustique, c'est tombé comme ça, enfin, c'est chacun à son interprétation. Donc voilà, en fait, ma question, elle est un peu celle-là, c'est que si on met dans une clause d'utiliser une race locale, si on n'en a pas, il faut soit la créer ou soit faire comprendre que bah, on ramène des races de peut-être d'un peu plus loin, mais en conservant vraiment ses aptitudes à la rusticité et de recréer quelque chose, en fait. Voilà. Ah, c'est pour vous deux,
je pense. Non, en deux mots... Je suis d'accord complètement avec vous sur la rusticité. Simplement un point, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la géline de Touraine, c'est une poule, mais bon, ça ne remplacera pas le mouton. Mais il vaut mieux prendre, non franchement, il vaut mieux prendre une solognotte ou une race circumlocale plutôt que de ne pas prendre une race locale. Ce n'est pas très grave qu'elle ne vienne pas exactement d'Indre-et-Loire. Si elle vient du Loir-et-Cher, c'est quand même, ça reste...
La charmoise.
Oui, non mais... C'est vrai, mais je pense que la priorité, c'est la race rustique locale, mais ensuite, c'est la race rustique, qu'elle soit locale ou pas. On met des vaches casta dont il ne reste plus que 200 vaches sur certaines réserves du nord de la France. Ben, c'est bien quand même, parce que c'est aussi un conservatoire qui se crée. Donc, si on a... Oui, mais comme chaque race a une histoire, il faut jouer sur cette histoire, même si l'histoire n'est pas forcément totalement locale.
Voilà, ben merci. Je vois déjà des gens qui partent, donc effectivement, à 11h30, oui, à Paris, vous êtes obligé effectivement de composer, effectivement. À 11h30, il y a un atelier qui se tient, si vous voulez justement faire comme Vincent Cerclier, devenir prestataire de services en éco-pâturage. C'est Christophe Bacou de Sénopé, peut-être que des gens le connaissent, c'est en bas, donc l'atelier 1. Au même moment, ça va être comment adapter l'éco-pâturage au milieu à entretenir, donc avec Thierry Lecomte, hein, c'est la réserve naturelle régionale des Courtilles de Bouclon. Il était déjà intervenu comme Philippe Jacques Dubois dans la première édition d'ailleurs. Donc ça c'est l'atelier 2. Et puis ceux qui restent ici, merci encore hein, Vincent Cerclier, merci, bravo. Ouais, il vous avait une remarque Ah, attendez, un petit complément d'information.
Juste si vous êtes intéressé pour quelques informations sur l'éco-pâturage avec notre association, Éco-pâturage Paysan 44, on a des petits flyers avec Régis ou moi-même.
Communication, c'est important, effectivement. Merci, Vincent Cerclier.